histoire particulière. Vous êtes à l'heure, et c'est bien, nous allons pouvoir commencer une nouvelle histoire. Un nouveau récit documentaire en deux épisodes. La nouvelle histoire de cet après-midi est une histoire singulière, une histoire vraie. Son prénom vient du latin Dulci, qui signifie doux. Son nom, September, vient d'une lignée d'esclaves d'Afrique du Sud. Dans l'histoire de l'Afrique du Sud, il existe des combattants anonymes contre l'apartheid, dans l'ombre des géants que furent Mandela, Sisulu et Biko. Il existe aussi des militantes qui, depuis leur exil européen, sont devenues des héroïnes. Voici l'histoire de l'une d'entre elles, racontée par Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre. Tout de suite, le premier épisode.
29 mars 1988.
Attentat ce matin à Paris. La représentante du Congrès national africain, le parti d'opposition au gouvernement d'Afrique du Sud, Dulci September, a été tuée d'une balle de pistolet par un inconnu qui l'attendait sur le palier de son bureau rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement.
5 balles, 5 coups de feu. Ce matin, je vide ma boîte aux lettres comme d'habitude. Je n'aime pas ces gens de l'autre côté du palier.
Dulci September, affaire non classée. Une militante qui en savait trop. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre.
Ce matin, je suis nerveuse et veux prendre mon courrier avant tout le monde. L'après-midi, je porte une étiquette. Et on me glisse dans un tiroir à la morgue de Paris.
Nestor Vidalagnur, où est-ce qu'on se trouve ?
Là, on se trouve au 28 rue des Petites Écuries. Et c'est là où se trouvait le bureau de l'ANC. Et c'est là où a été assassinée la représentante de l'ANC, Dulci September, en 1988.
Le mardi 29 mars 1988, à Paris.
De nombreux sympathisants, souvent anonymes, du mouvement anti-apartheid en France sont venus durant toute la nuit rendre à la maison des métallurgistes de Paris un dernier hommage à Dulci September. Le corps de la représentante de l'ANC reposait dans un simple cercueil de chêne clair, frappé d'un crucifix et recouvert du drapeau noir, vert et jaune de l'organisation. Le catafalque était surmonté d'un grand portrait de Madame September et entouré de banderoles où on pouvait lire « Application immédiate des sanctions globales » ou « Solidarité avec l'ANC ».
De toutes mes années de militante anti-apartheid, je n'avais jamais rien vu de semblable. Des milliers de gens étaient dans les rues. Certains pleuraient, tous choqués. Certains protestaient et voulaient des réponses. Les funérailles ont été une apothéose de noir, de vert et d'or. Ces couleurs se retrouvaient partout dans la foule qui convergeait vers le cimetière du Père Lachaise.
Vous, Nestor, vous avez travaillé avec Dulci pendant 2 ans.
Tout à fait. On faisait tout, les traductions simultanées, et avec les délégations qui venaient d'Afrique du Sud. Il y avait les voyages avec le matériel, les films, les livres, pour rencontrer les comités anti-apartheid un peu partout en France et susciter d'autres comités. Et c'était essentiellement ça mon rôle.
Dulci était très discrète. Dulci ne parlait très peu d'elle. Elle parlait beaucoup de l'Afrique du Sud, parlait beaucoup de son peuple, parlait beaucoup de la lutte, parlait beaucoup de l'ANC, mais très peu d'elle. Il n'y avait que quand elle était un petit peu, elle venait chez nous, par exemple, on prenait un moment de détente. Alors là, elle nous parlait un peu de son pays, qu'elle aimait beaucoup. Son rêve, c'était vraiment de retourner en Afrique du Sud. C'est ça qu'elle voulait.
Jacqueline de Reims, devenue une amie très proche de Dulci September, a milité de longues années contre l'apartheid et a fondé à Arcueil l'association RENAPAS, Rencontre Nationale avec les Peuples d'Afrique du Sud.
Une fois, elle m'a dit, c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait été en prison, elle grelottait, elle avait froid, et je lui ai dit, mais enfin, Dulci, je comprends pas, il fait pas froid, quoi. Et elle me dit, oui, mais tu sais, depuis que je suis allée en prison, j'ai souffert du froid, et maintenant, je suis hyper frileuse. Voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait été en prison.
Hein. Elle a passé 5 ans de prison, entre 19 et 24 ans.
Voilà.
Ce qui est pas rien.
Ouais.
Et au moment où, 1973, elle quitte son pays, elle a 28 ans, et c'est un visa sans retour.
Absolument, elle le sait.
Elle le sait, sauf si la lutte est victorieuse et si l'ANC arrive à son but, c'est-à-dire vraiment mettre fin au système d'apartheid.
On m'a souvent demandé ce qui m'a poussé à devenir une militante politique.
Extrait de la pièce de l'auteure sud-africaine Denise Newman, Dulcie September, Affaires classées.
Ce qui a fait de moi une enseignante dévouée, une combattante qui voulait renverser le gouvernement. Il y avait beaucoup de choses. La boule de colère, là, bien serrée au creux de l'estomac. Les familles noires qui disparaissaient. La loi sur la résidence. Un enseignant qui partait en exil. La marche des femmes sur Union Building à Pretoria le 9 août 1956. Beaucoup de choses entassées dans ces boîtes lourdes qui menaçaient d'exploser. Une série d'événements m'a conduit ici, avec un permis d'exil en poche, pour ne plus jamais revenir.
1979, année internationale de l'enfance à l'UNESCO, Jacqueline de Reims est dans le public.
Il y avait bien sûr des séances de l'UNESCO qui étaient consacrées à l'Afrique du Sud. Donc quand moi je suis allée à cette conférence, il y avait Dulcie September qui était là, et Dulcie September qui parlait au nom de l'ANC. Et vraiment, elle m'a fait une impression absolument extraordinaire, parce que, d'abord, c'était une très belle femme, c'était une grande femme métisse, qui avait vraiment beaucoup d'allure, hein, et qui a fait un discours absolument, enfin, on avait les larmes aux yeux, quoi. C'était quelqu'un qui savait parler de son peuple, parce que ça, ce qu'elle avait à cœur, c'était son peuple et son pays, qu'elle voulait absolument sortir de ce système épouvantable qu'était l'apartheid. Quand j'ai su qu'elle allait être représentante de l'ANC à Paris, bien évidemment, j'ai dit, mais ça, c'est formidable, on va avoir quelqu'un de costaud, voilà. Et donc, quand Dulcie est arrivée, tout naturellement, je suis allée travailler avec elle. Ça me paraissait complètement évident.
J'ai beaucoup voyagé, mais depuis que je suis à Paris, en tant que représentante de l'ANC pour la France, la Suisse et le Luxembourg, je voyage de plus en plus. Je reviens d'une conférence qui avait pour objet l'isolement du régime sud-africain. Les sanctions étaient la priorité du programme.
C'est une femme déterminée, une femme organisée, une femme en colère. Elle avait le sens de l'urgence et donnait l'impression qu'elle était tendue en fait vers son unique objectif qui était la lutte contre l'apartheid. Elle voulait la fin de l'apartheid.
Jacqueline de Reims, ce système d'apartheid, il est mis en place en 1948. Dulcie September, elle est née en 1935 au Cap, dans la ville qui a créé l'apartheid, puisque c'est par là que sont arrivés les Afrikaners. Qu'est-ce qu'elle vous raconte de son enfance, et du commencement même de sa lutte dans les jeunes années?
Vous savez qu'elle a été militante très jeune, hein, parce qu'elle avait fait des études d'institutrice. Eh bien, évidemment, elle s'est battue contre l'imposition d'une école au rabais pour les populations non blanches. Et comme elle était métisse, elle, sa famille a connu l'éviction des métisses de la région du Cap. Vous avez le fameux District 6, qui est très célèbre, hein, et qui était un quartier où tout le monde vivait ensemble. C'était un quartier très populaire, hein, où il y avait des Indiens, il y avait des Métis, il y avait une population juive importante. Il y avait, voilà, c'était grouillante vie. Et là, un beau matin, on a dit, mais non, tout ça maintenant, c'est pour les Blancs, vous dégagez. Et on a mis la population métisse dans ce qu'on appelle les Cape Flats, c'est-à-dire une région qui est juste au niveau de la mer, donc marécageuse, quand il pleut, c'est inondé, etc. Et c'est là qu'on a mis, les Noirs y étaient déjà, hein, Langa, etc., ils étaient des bad township noirs, mais là on a mis les populations métisses aussi. Et donc la famille de Dulcie, son père était enseignant, sa mère était mère de famille, mais c'était de petites bourgeoisies, lower middle class, comme on dit, hein, en anglais. Et donc, ils se sont retrouvés frappés de plein fouet par la politique d'apartheid, hein, en les chassant de chez eux. Et puis après, quand Dulcie a voulu faire des études d'enseignante, elle a tout de suite vu qu'elle n'allait enseigner que des choses au rabais parce que ses élèves n'avaient pas la peau blanche. Et ça l'a complètement révoltée.
C'était une femme qui tenait en très grande estime son organisation, le Congrès national africain. Je me souviens quand il y avait des choses qui n'allaient pas bien, il disait toujours « Que dira le bureau politique du Congrès national africain s'ils apprennent que telle chose n'a pas été faite, etc. » Le 6 septembre avait un rapport très particulier au temps. Il avait très très peur d'être en retard. La première fois qu'on avait rendez-vous dans le métro, on devait aller à une réunion politique. J'arrive exactement à l'heure. Elle était là depuis 10 minutes. Donc elle sort sa montre et me dit « Vous êtes en retard ». Je dis non, on regarde la montre et je suis à l'heure pile. Elle me dit « Oui, mais il y a une erreur dans ce que vous avez fait, vous auriez dû être là 10 minutes avant, au moins 15 minutes avant ». Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que, vous savez, quand on est dans la lutte, il ne faut jamais prendre le risque d'être en retard. Parce que si vous avez une action à mener et que vous êtes en retard, c'est loupé et ça peut emporter les vies humaines. » Alors je lui ai dit « Dans ce cas, chaque fois qu'on a rendez-vous, il faut dire qu'il faut être là 15 minutes avant. » Donc il ne fallait absolument pas être en retard. Ça, c'était une valeur cardinale de Dulcie.
Jacqueline de Reims, Dulcie September quitte en 1973, à l'âge de 28 ans, l'Afrique du Sud. La même année, les Nations Unies déclarent que l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. Dulcie continue son chemin vers Londres. 79, vous la rencontrez à l'UNESCO. 84, elle arrive comme représentante officielle de l'ANC à Paris. Ce bureau, est-ce que ça devient l'épicentre d'une vie associative avec le MRAP, le Parti communiste, tous les anti-apartheid et tous les gens mobilisés?
Absolument. C'était un petit peu une fourmilière, disons, hein, une fourmilière où il y avait un peu la reine, la reine Dulcie, et puis toutes les petites fourmis, là, nous, alors, tous les militants anti-apartheid, les syndicalistes, les partis politiques, le MRAP, comme vous disiez, enfin, tous ces mouvements se retrouvaient là et venaient chercher des informations, en fait, pour savoir comment eux, par rapport à leur association, par rapport à ce qu'ils faisaient, comment ils allaient pouvoir démarrer une campagne.
L'apartheid et comment le combattre, c'est aussi l'objet d'une campagne et d'une manifestation à l'initiative de la jeunesse communiste de France. C'était à Paris aujourd'hui. Plusieurs milliers de jeunes ont ainsi défilé tout à l'heure de la Bastille à la Nation pour dénoncer le système en vigueur en Afrique du Sud. Ils avaient été rejoints auparavant par des jeunes venus de toute l'Europe.
Jacques Perreux, Dulcie September, une scène où elle se met en colère, 1986.
C'était la première très grande manifestation que nous avions organisée à Beaubourg, dans un lieu magnifique. On avait eu l'autorisation à l'époque de Hayagon pour mettre des fresques décorées avec des grandes fresques de Quino, de Ernest Pignon Ernest, de Jouffroy. Et puis on était complètement nous-mêmes débordés par le succès de cette manifestation. On n'en revenait pas d'avoir mis il y avait vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue. Les drapeaux de l'ANC qui étaient noir, jaune, vert. Et à un moment donné, je vois arriver Dulcie September qui fend la foule, qui se dirige vers moi. Et elle était vraiment... Elle avait quelque chose. Tout le monde était joyeux. Et il y avait une seule personne qui aurait dû être la plus joyeuse de tous. Et elle était ça, visiblement très, très en colère. Et en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que nous nous étions trompés dans l'ordre des couleurs de l'ANC. Ces drapeaux avaient été faits le plus souvent par les mamans des jeunes communistes ou par des ateliers turcs solidaires de la lutte contre l'apartheid. Et on s'était trompés. On s'était trompés. Et il a fallu parlementer pendant, je pense, 10 minutes, un quart d'heure, avant qu'elle accepte que le cortège parte et défile. Et on avait mis la plupart de ces drapeaux, donc qui n'étaient pas dans le bon ordre, on les avait mis à la fin du défilé, pour qu'au moins au démarrage du défilé, la représentante de l'ANC soit sous les bonnes couleurs.
À l'époque, vos fonctions, c'était quoi, Jacques Perreux ?
J'étais secrétaire général de la jeunesse communiste, et c'est vrai qu'on était très très investis dans cette bataille pour libérer Mandela. Donc c'est vrai que j'avais l'occasion de rencontrer très souvent Dulcie September. Enfin, très souvent, on se voyait, je sais pas, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. On faisait le point, et elle, on voyait bien qu'elle étudiait minutieusement tout ce que nous écrivions. Quand on disait, par exemple, il y a 70 ou 75% des enfants noirs qui ne vont pas à l'école, si le chiffre n'était pas bon, à 2 ou 3% près, elle nous corrigeait, quoi.
J'aimais bien marcher dans la rue des Petites Écuries pour aller à mon bureau. Mon petit coin à moi, dans ce 10e arrondissement, grouillant, qui m'accueillait.
Là, on est dans la cour du 28 des Petites Écuries, Paris 10e, Nestor Vidal-Anur. Donc le bureau, c'était au 4e.
Voilà. Tout le monde me connaissait. Je m'arrêtais pour bavarder.
J'accompagnais Dulcie September, bien entendu, dans toutes les rencontres officielles. notamment dans les ministères, mais aussi pour rencontrer les différentes organisations politiques françaises, parce que sa mission, c'était expliquer ce qu'était réellement le système d'apartheid et essayer d'obtenir le soutien à l'ANC et surtout le boycott de ce système qui avait été condamné par les Nations Unies comme un crime contre l'humanité.
Les assassins tirent deux fois sur Godfrey Motsepe, notre représentant à Bruxelles. Ils manquent leur coup deux fois. Ces gens-là n'ont pas été formés pour manquer leur cible. Les services secrets belges font savoir aux Français qu'il y a trois agents sud-africains à Bruxelles. Plusieurs fois, je suis allée à la police en France pour leur dire que ma vie était en danger. Mon téléphone est sous écoute. Mon bureau a été cambriolé. Je ne perds plus mon temps à aller voir la police ou le ministère de l'Intérieur depuis qu'un représentant m'a regardé en face et m'a dit « Madame, nous ne pouvons pas nous faire les complices et compter les points entre les factions de terroristes sur le sol français. »
C'est le régime sud-africain qui est terroriste. Nous, notre action est politique et militaire.
Du 6 septembre, France 2, 1985.
En aucun cas, ce n'est du terrorisme.
Quelles conditions mettez-vous à la négociation avec Pretoria ?
Avant tout, il faut que Pretoria abolisse les lois racistes qu'il a inscrites dans sa constitution, ainsi que toutes les restrictions à la liberté de circuler et de travailler des Noirs. Il doit libérer tous les prisonniers politiques. Il doit reconnaître l'ANC comme vrai représentant du peuple africain.
Je sens le souffle des tueurs de l'apartheid sur mon cou.
Jacqueline Doras, quand on regarde un peu les archives de la lutte anti-apartheid, on s'aperçoit qu'entre 1980 et 1988, il y a eu 42 tentatives de meurtre visant des exilés sud-africains, attentats à la bombe contre le bureau de l'ANC, et au mois de février 88, donc quelques mois avant l'assassinat du 6 septembre, le représentant de l'ANC en Belgique, qui échappe de peu aux balles d'un tueur.
Oui.
Donc il y avait quand même des signes qui pouvaient dire que Dulcy était une cible.
Bien évidemment, bien évidemment. Comment expliquer que les services secrets français ne savaient pas qu'il y avait une tentative d'assassinat à Bruxelles ? Comment pouvait-il ignorer que Dulcy avait été agressé dans le métro ? Donc les services secrets français savaient parfaitement de quoi il retournait. Et la question qui est posée, pourquoi n'ont-ils rien fait ? C'est-à-dire qu'ils ont laissé rentrer sur le territoire un tueur, et ils l'ont laissé faire ce qu'il avait à faire. C'est un meurtre d'État. On savait que la France était grand fournisseur d'armes à l'Afrique du Sud. Ça remonte à très loin. Le général de Gaulle avait une idée un peu obsessionnelle, c'était que la France ait l'arme nucléaire. Donc pour avoir l'arme nucléaire, il faut évidemment avoir de l'uranium. Le général a dit, j'ai besoin d'uranium, vous avez besoin d'armes, pas de problème, on fait échange. À partir de ce moment-là, la France a été le gros fournisseur d'armes à l'Afrique du Sud. Les embargos ont été contournés continuellement. On avait beau faire nos manifs et nos pancartes devant l'ambassade d'Afrique du Sud, ils s'en contrefichaient. Dans le livre là, de Henny Van Vuren là, qui vient de sortir, bon, il dit des choses que nous, militants communistes et anti-apartheid, nous connaissions.
Alors, Henny Van Vuren, donc, c'est un chercheur, journaliste sud-africain qui vient d'écrire une somme de 600 pages qui s'appelle « Apartheid, Guns and Money », donc l'apartheid, les armes et l'argent, « A Tale of Profit », donc une histoire de profit, une histoire d'intérêt. Et il consacre un chapitre à la France et à l'assassinat de Dulcy, qui visiblement était en train de mettre à jour ces liens occultes entre un gouvernement qui l'acceptait comme représentante de l'ANC et qui en sous-main négociait des ventes d'armes.
My colleagues and I at Open Secrets worked researching this book for the past 5 years.
Mes collègues et moi-même, qui dirigent l'ONG Open Secrets, avons travaillé pendant 5 ans pour exploiter 25 archives issues de 7 pays différents. Et nous avons interviewé plus d'une centaine de personnes. Je développe dans le livre l'idée que Dulcy September n'incarnait pas seulement une menace pour le régime de l'apartheid, mais aussi pour un système de relations secrètes mis en place entre plusieurs pays, dont la France et l'Afrique du Sud. Nous pensons qu'au moment de sa mort, elle enquêtait sur les ventes d'armes illicites. Pendant notre travail de recherche, nous avons eu accès à peu près 2 millions de documents, dont la plupart étaient déclassifiés pour la première fois. Ce qui est apparu dans ces documents, premièrement, que la compagnie gérée par l'État sud-africain pour l'achat d'armes, Arms Corps, avait installé une unité au sein de l'ambassade sud-africaine à Paris depuis la fin des années 70 et jusqu'au début des années 90. Pendant les soi-disant années de l'embargo, au moins 30 personnes travaillaient à l'étage supérieur de l'ambassade, pas très loin des Champs-Élysées. C'est à cet étage que ces personnes œuvraient, jour après jour, pour contourner les sanctions internationales. Nous pensons que les autorités françaises, au plus haut niveau, à l'époque, étaient parfaitement au courant. Deuxièmement, ce que nous mettons à jour, c'est l'extraordinaire connivence entre le service secret sud-africain et son homologue français, ancêtre de l'actuel DGSE. Des réunions clandestines ont eu lieu, des accords ont été noués entre services, et c'est cette grande proximité entre services et leurs actions conjointes qui ont été sur le point d'être mises à jour en 1988 par Dulcie September. Une raison suffisante à nos yeux pour que, dans les deux camps, la décision ait été prise de la supprimer.
Depuis quelques jours, des peintres sont arrivés. Ils prennent un temps fou à peindre le palier et les bureaux. Ils montent et ils descendent les escaliers. Ils cognent leurs seaux et leurs échelles métalliques. 5 coups de feu. Un homme est assis près de mon corps en attendant la police. Il fait froid ce 29 mars 1988. Dans le brouhaha du matin, personne n'a entendu les coups tirés avec un fusil équipé d'un silencieux.
On avait beaucoup de signaux de ce qui se préparait, mais malheureusement, hélas, la police n'a jamais fait son travail. Et ainsi est morte Dulcie September. Elle n'a pas eu la protection qu'elle a plusieurs fois demandée. Je vais parler de complicité passive.
J'allais de temps en temps voir Dulcie September et effectivement, c'était un immeuble où on rentrait comme ça, on appuyait juste sur le bouton pour ouvrir la porte. On montait au quatrième étage, on sonnait, enfin il n'y avait aucune protection particulière, donc c'était une cible particulièrement facile pour les tueurs de l'apartheid.
Le traducteur Georges Lory.
On espérait bien que lors de la commission Vérité et Réconciliation, puisque tous les documents sortaient, tous les témoignages arrivaient, que certains bourreaux pouvaient obtenir l'amnestie s'il était prouvé qu'ils parlaient sans esprit de lucre ni de revanche. Donc il y a eu un petit moment où on espérait savoir beaucoup de choses. Dans le cas très précis de l'assassinat d'Ulti September, rien ne sort et c'est un petit peu ma deuxième déception, c'est qu'on attendait beaucoup. Déjà que l'enquête côté français n'a pas été brillante, je rappelle que c'était Charles Pasquale, ministre de l'Intérieur à l'époque. Côté sud-africain, on n'en apprend pas plus au moment où sortent tous les documents. Donc effectivement, j'étais très déçu.
Nestor Bidadanur, vous avez arrêté d'être membre de l'ANC, de travailler pour eux juste après la mort de Dulcie September en 1988. Est-ce que vous avez continué à regarder quand même l'évolution du pays? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui?
Bon, il faut dire que quand Dulcie est morte, j'étais déjà retourné à l'université. Mais j'ai gardé des relations sporadiques. Parce que quand je me suis engagé aux côtés de l'ANC pour la solidarité, j'ai en fait abandonné mes études. Alors, qu'est-ce que je pense aujourd'hui de la situation en Afrique du Sud? Ce qui est sûr, c'est que l'ANC se battait pour la Charte de la Liberté. Et la Charte de la Liberté dit que l'objectif de combat, c'était faire en sorte qu'il y ait, on va dire, on va faire très court, que chacun puisse avoir un logement, que chaque Sud-Africain puisse avoir accès à l'éducation, au travail, à des soins dignes. Et voilà, et puis toutes les libertés politiques qu'il faut. Et tant qu'en Afrique du Sud, cet objectif n'aura pas été atteint pour tout le monde, il faut dire que le combat continue. Et puis il ne faut jamais oublier que le combat contre l'apartheid, le combat contre le colonialisme, c'est une chose. Mais comme disait Nelson Mandela, il disait « nous ne sommes pas libres, nous avons juste obtenu le droit d'être libres ». Et l'Afrique du Sud, le peuple sud-africain ne sera pas libre que si les objectifs de la Charte de la Liberté sont atteints pour tous. Et surtout, de sortir de toutes les affaires de corruption qui ne sont pas dignes d'un mouvement comme l'ANC.
Lady Van Buren, est-ce que Dulcie September existe encore aujourd'hui pour les habitants de son pays ?
Elle a été effacée de la mémoire de l'Afrique du Sud, comme beaucoup d'autres personnes qui ont perdu la vie. Mais il y a une raison importante pour laquelle le meurtre de Dulcie September n'a pas été élucidé de façon appropriée, notamment du côté sud-africain. La raison, c'est le commerce qui continue entre la France et l'Afrique du Sud. Une des compagnies sur laquelle enquêtait à l'époque Dulcie September était Thomson CSF, qui a eu une relation très étroite avec le régime de l'apartheid des années 60. La coopération portait sur la fabrication de missiles. Cette coopération a continué dans les années 70 et 80, et dans les années 90, Thomson CSF a changé de nom pour devenir Thales. Et Thales a été une des premières sociétés qui a exercé un lobbying important pour vendre des armes au gouvernement démocratique sud-africain, dirigé d'abord par Nelson Mandela, puis Thabo Mbeki. La France n'a pas remporté le contrat le plus gros, mais un des plus gros est revenu à Thales. Et c'est cette même société Thales qui est suspectée d'avoir payé des pots de vin à Jacob Zuma quand il était encore un élu provincial et avant qu'il ne devienne, en 2009, le président sud-africain. Jacob Zuma est l'objet d'au moins 700 plaintes concernant des affaires de corruption, de prêts frauduleux ou de versements qui auraient été donc payés par Thales. Jacob Zuma a passé les 10 dernières années à combattre pied à pied chaque accusation pour être sûr de ne pas avoir à rendre de compte à la justice. Et il n'y a aucun doute que Thales ne souhaite pas non plus qu'il soit traduit devant un tribunal.
Oui, quand on voit Mandela à la hauteur de vue qu'il avait, et je dirais non pas seulement Mandela, mais tous ses co-détenus à Robben Island, qui étaient des gens d'une grande droiture, Zuma est un contre-exemple, en effet, polygame, traînant beaucoup de casseroles derrière lui. Il y a un petit peu une ruée vers l'argent qui fait mauvais genre dans l'entourage de Zuma. C'est pas brillant. Il faudrait quand même pas tout jeter à terre. Il y a encore beaucoup de choses très positives en Afrique du Sud. D'abord, c'est une vraie démocratie. La presse reste libre jusqu'à preuve du contraire. Le substrat économique reste encore solide. Toute la société n'est pas corrompue. Espérons qu'une nouvelle génération va prendre le relais.
Merci à Jacqueline de Reims, auteure de Dulcie September, Une vie pour la liberté, aux éditions Non-Lieu, à Nestor Bidadanur, écrivain et ancien collaborateur de Dulcie September, au traducteur Georges Lory, à Jacques Perreux, ancien secrétaire national des Jeunesses communistes, et au journaliste sud-africain Henny Van Vuren. Les extraits de la pièce de Denise Newman étaient dits par Mylène Wagram. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, prise de son Jean-Guilain Maège, mixage Pascal Bénard, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared. À suivre, une vie entre mémoire et oubli.
Oui, à suivre, car une histoire particulière continue. Le second épisode du documentaire Qui se souvient de Dulcie September, c'est demain et c'est à 13h30. Mais pour l'instant, nous allons tous au cinéma avec Antoine Guillot.